France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Dans cette émission, nos invités sont nombreux à soulever le fait que la musique permet parfois de s'exprimer lorsque les mots manquent. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse avec notre invité à la musique des mots, à la douce sonorité des mots, à celle d'une plume, à la lecture musicale aussi, le rythme, le souffle, le grain de voix, le mouvement animant la parole. Ce que j'essaye d'écrire, c'est une musique, dirait notre invité. Alors la musique peut-elle se faire entendre dans l'écriture ? Bonjour Maëlys de Kerangal.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue sur France Musique, écrivaine, romancière, grand plaisir de vous accueillir dans cette émission. Tiens, quels mots vous viennent en tête à l'écoute de ce mouvement, de cet extrait de la 8e symphonie de Franz Schubert ?
Sans doute l'idée de... du mystère, ouais. L'idée de quelque chose de... Il se passe quelque chose d'assez mystérieux, il y a une trépidation, une vélocité et... Et pour le coup, je trouve que c'est extrêmement expressif. Enfin, il y a presque un expressionnisme de cette musique.
Et puis un petit coup de lumière aussi ici.
Il y a des variations, quoi. Ça joue effectivement sur la lumière, mais aussi sur des... Ça démarre un peu dans le sombre, dans le lent, dans le très mystérieux. Et puis voilà, ça revient comme ça. Ce qui est beau dans ce, je trouve, dans ce morceau, c'est justement toute sa ductilité, quoi. C'est-à-dire l'idée que ça s'éclaire, ça s'assombrit, ça ralentit, ça accélère. C'est vraiment une phrase extraordinaire, en fait.
La musique vous accompagne-t-elle dans des phases d'écriture ?
Alors, j'ai souvent une espèce de playlist que je corrèle à un livre, que j'associe à un travail d'écriture, que j'associe parfois même certaines scènes, certaines séquences, que voilà, je me dis voilà, aujourd'hui je voudrais arriver à écrire ça, etc. Pour autant, je n'écoute pas de musique
pendant
l'écriture, non, parce que je trouve que pour le coup, moi-même, j'essaye d'instaurer, alors non pas une musique, ce serait bien trop prétentieux, enfin j'ai pas du tout cette prétention-là, mais en revanche, j'essaye de capter des rythmes, de capter une espèce de souffle, en tout cas une forme de tonalité, et j'ai le sentiment que écouter de la musique en même temps, il y aurait des effets Larsen, des effets de
une influence trop forte, peut-être.
Ouais. J'arriverai pas forcément à démêler la phrase que je veux écrire et puis celle que j'écoute.
Cela dit, vous avez une écriture très musicale, Maëlys de Kerangal. C'est quoi, selon vous, la musique des mots ?
Alors, moi, je suis assez attachée à l'idée que les livres puissent se lire à haute voix, en fait. Donc, pour moi, ce qu'on appelle la musique des mots, c'est simplement peut-être une capacité, une faculté qu'a un texte à être saisi dans sa vocalité. Et donc dans ses amorces, dans ses chutes, dans sa ponctuation, dans ses souffles, enfin... Ça compte beaucoup pour moi quand je travaille. Alors, et après, évidemment...
Vous lisez à voix haute quand vous travaillez ?
Oui, quand j'ai le sentiment d'avoir achevé voilà quelques pages et voilà que j'ai l'impression de tenir un ensemble, je lis à voix haute. Alors je lis un peu pour voir aussi comment ça sonne. C'est-à-dire il y a aussi un aspect euphonique. Il n'y a pas que le rythme. Il y a aussi vraiment les sons que ça produit. Il y a des choses qu'on écrit, voilà, des moments d'un texte où voilà c'est très bruyant, d'autres où il faut au contraire faire sentir les silences, les vides, l'attente, l'appréhension, parfois au contraire contraire, c'est extrêmement... voilà, il y a des sonorités extrêmement compactes. Ça m'intéresse beaucoup, comment l'écriture peut restituer aussi une matière sonore. Et pour ça, je trouve que le passage par la lecture à haute voix peut être, sinon un test, du moins une première appréhension du texte.
Extrait du premier mouvement du concerto pour flûte et harpe de Mozart, interprété ici par Philippe Bernold et Emmanuel Cesson, accompagné par l'Orchestre de Chambre de Paris. Show musical de notre invité aujourd'hui, Maïlys de Kerangal. Un petit mot sur ce concerto d'une très grande douceur.
D'une très grande douceur et aussi d'une très grande lumière aussi. Je trouve que c'est un morceau presque scintillant. Et moi, j'aime beaucoup la douceur, mais la... espèce de légèreté, d'affleurement, on a l'impression
presque
que c'est presque
de la naïveté.
Un art du toucher, je dirais aussi. Vous voyez, ça va très très vite. Et il y a quelque chose, oui, d'une pure joie, de quelque chose. Ouais, je trouve que c'est un morceau assez éblouissant. Et puis j'aime vraiment la flûte et l'harpe ensemble.
Ce qui ne se fait pas si souvent que ça, un concerto pour flûte et harpe, un concerto pour deux solistes, donc ouais, accompagné par l'orchestre. On évoque cette polyphonie alors solistique, polyphonie qu'on retrouve aussi dans certains de vos romans. Ouais. Maïlys de Kerangal, je me suis demandé si c'était conscient.
Non, mais l'idée qu'il y ait deux solistes, en fait, j'aime ça parce que c'est aussi voilà, l'idée de quelque chose de collectif où justement il y aurait deux voix, ça dialogue, immédiatement il y a quelque chose d'un échange, d'une interaction, d'une conversation. Et je trouve que ce morceau, enfin, il est si beau qu'on a l'impression finalement d'assister à une forme de conversation légère, douce et brillante entre ces deux instruments. Moi, je trouve que c'est splendide, hein. Vraiment, c'est admirable.
Un partage de la virtuosité, concerto écrit en 1778 par Mozart, donc pour un duc flûtiste amateur et sa fille harpiste.
Ouais, il voulait jouer avec elle. Ouais.
Exactement, un beau cadeau finalement à retenir.
Voilà, c'est ce qui montre bien aussi l'idée que ce qui est à l'œuvre, c'est une relation. C'est intéressant, je trouve.
Parlons d'héritage familial, justement. Maëlys Carangal, vous avez fait des cours de musique. Peut-être avez-vous appris un instrument quand vous étiez petite?
Non, pas du tout. Non. J'ai un peu chanté, mais je n'ai pas appris d'instrument de musique.
Comment l'avez-vous découverte, alors?
En écoutant beaucoup, la musique faisait de toute façon partie de notre vie, puis partie de la mienne une fois que j'étais adulte, peut-être de manière plus intense. Et puis il y a eu un moment où j'ai eu envie de chanter, donc là ça a été un moment quand même important, vous voyez, où j'avais envie d'aller prendre des cours de chant, explorer la voix. Et alors ça m'a fait évidemment découvrir ce continent immense, enfin ce monde de la musique que je connais de manière très partielle. Et assez mal, mais voilà, j'ai eu aussi à ce moment-là l'occasion de m'approprier aussi certains morceaux.
Cela dit, c'est un concerto pour piano qu'on va entendre, votre prochain choix musical, un extrait absolument splendide de cette version de Martha Argerich, qui est très très souvent demandée par nos invités sur France Musique, le deuxième mouvement du concerto en sol majeur de Maurice Ravel.
Thank you.
Franz Carangal plongé dans ses pensées à l'écoute de ce début du deuxième mouvement du concerto pour piano en sol majeur de Maurice Ravel, interprété par Martha Argerich, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Claudio Abbado à la direction. Tiens, si vous deviez l'écouter, s'il faisait partie ce concerto d'une de vos playlists que vous écoutez juste avant de vous mettre au travail, Maïlys de Carangal, quel type de récit en découlerait?
Je crois que ce serait quelque chose qui aurait trait à la question du temps. En fait, quand j'écoute ce morceau, j'ai le sentiment que c'est une forme de pure expression de ce que c'est que la temporalité, quoi, de ce que c'est que le temps qui s'écoule avec quelque chose d'assez scandé et en même temps ces lignes d'événements, voilà, qui nous traversent. Ouais, je crois que ce serait quelque chose qui serait lié à cette question des durées qui s'entrelacent, des durées qui s'entrechoquent, d'une espèce d'enchevêtrement temporel. Je pense que c'est ça que ça inspire et c'est aussi pour ça que c'est si troublant, en fait. C'est un morceau extrêmement émouvant. Et je crois qu'il nous parle de ça. Il nous parle de la vie même et évidemment du temps qui s'écoule.
Et puis il y a ce temps qui est marqué par une interprétation, hein, bien sûr celle de Martha Argerich ici en 1967. Vraiment la ponctuation de son intervention est extrêmement raffinée, délicate.
C'est extrêmement sensible et je pense que elle parvient à donner à ce morceau une allure de simplicité, alors que l'on sait que l'on a affaire à une œuvre extrêmement complexe, ne serait-ce que justement dans cette idée de ponctuation des temps.
Ponctuation, signe qui structure un texte aussi, évidemment, dans l'écriture d'un roman. Comment justement peut-être alors travailler, de votre point de vue à vous, cette quête du naturel, finalement?
C'est un peu le travail de toute une vie d'auteur, j'imagine.
Oui.
Mais c'est quand même l'idée de trouver sa forme singulière, de trouver sa voix singulière. La ponctuation, à mon sens, c'est souvent ce qui distingue une écriture. C'est-à-dire la manière dont le corps de l'auteur vient finalement se faire voir, se manifeste dans sa phrase. Les endroits où il reprend son souffle, les endroits où il accélère, ceux où il arrête, ceux où il chute, ceux où il étire sa phrase, ceux où au contraire il y a une forme d'accélération, de montée en puissance. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensoriel et d'extrêmement... Il y a une physicalité finalement de la ponctuation qui est liée à celle qui anime le corps de l'auteur. En ce sens-là, c'est vraiment une question que je trouve assez fascinante. Pour le coup, cette question de la ponctuation, elle exprime aussi qui je suis, d'une certaine manière.
L'interprète, voilà. En quelque sorte.
France Musique, Saskia Deville.
Thank you.
Shibo no Aozora de Ryushi Sakamoto, un extrait de la bande originale du film Babel d'Iñárritu, interprété ici par Ishiro Goto au violon, Jacques Morlenbaum au violoncelle et Ryushi Sakamoto lui-même au piano. Un choix musical de Maïlys de Kerangal qui est avec nous aujourd'hui. Musique absolument splendide, moi qui m'avait bouleversée au moment où j'ai découvert ce film justement, Babel.
Mais lui, c'est un compositeur vraiment splendide. On le connaît beaucoup par le cinéma. Il y avait eu la musique de Furio avec David Bowie, avec ce morceau extrêmement célèbre, Good Morning Mr. Lawrence. Et puis, il a travaillé avec Bertolucci, il a travaillé donc avec Iñárritu. Et je trouve que il est complètement unique. Alors aussi sur cette espèce de phrasé assez cyclique, assez mélancolique, et très intense. C'est-à-dire que on est quand même très vite aimanté. Il y a un côté très magnétique de cette musique. Je trouve que c'est, et évidemment, ce qui m'intéressait, c'était sa capacité à projeter des images, parce que c'est vrai que la musique, quand elle inspire, c'est aussi qu'elle est capable de raviver des émotions enfouies au fond de soi. C'est elle qui va les chercher, finalement, qui pourrait les faire affleurer de nouveau. Et puis, la musique peut projeter des images, nourrir l'imaginaire, créer de la fiction aussi, enfin suggérer de la fiction.
Mais c'est justement là où je voulais en venir. Vous nous avez déjà proposé des portraits de jeunes Marseillais, des portraits de jeunes cuisiniers, d'une jeune peintre. À quand le portrait du ou de la jeune musicienne ou compositrice? C'est quelque chose auquel vous avez déjà songé, Maïlys de Kerangal?
Non, j'y ai pas songé, mais j'ai écrit un roman sur des chanteuses, enfin sur des musiciennes, sur Blondie, sur Debbie Harry, sur un groupe de pop, et puis sur Kate Bush. Et c'est vrai que j'avais aimé approcher cette question de la musique par l'écriture. La musique et l'écriture, c'est une relation à la fois fascinante et aussi quand même assez difficile à élaborer. On a parlé de la ponctuation, du rythme, de l'euphonie, etc., la manière dont l'écriture peut être une musique elle-même. Et c'est vrai que dans l'autre sens, la musique appelle des émotions, appelle des sentiments, appelle des histoires. Le premier morceau qu'on a écouté, le morceau de Schubert, on voit bien que il y a quelque chose d'extrêmement narratif. On a l'impression que c'est comme si on dépliait une histoire devant vous, quoi. C'est comme si une narration se donnait, se manifestait. C'est extraordinaire, ça.
Et vous n'êtes pas étrangère à beaucoup de projets de lecture musicale passée et à venir qu'on aurait adoré aborder dans cette émission, mais c'est déjà là. On va se quitter avec votre dernier choix musical, Maïlys de Kerangal, un extrait du trio pour piano, violon, violoncelle, opus 120 de Gabriel Fauré, interprété par le trio Karénine. J'en profite tout de même pour préciser à nos auditeurs, nos auditrices, que les chroniques du chantier de restauration du Grand Palais auquel vous participez, vous écrivez tous les trois mois un texte sur le rendu du chantier. Vous allez sur place.
J'accompagne cette espèce d'aventure incroyable.
Absolument, sur France Culture. C'est à suivre dans l'émission Affaires en cours de Marie Sorbier et également sur les sites grandpalais.fr et franceculture.fr. La prochaine chronique sort la semaine prochaine, le 25 janvier. Et puis on va mettre toutes ces informations sur le site de francemusique.fr, sur la page de l'émission. Maïlys de Kerangal, je vous remercie du fond du cœur. C'était vraiment un plaisir.
Merci.
Bonne journée à vous et puis merci à toute l'équipe. Éric Lancien, Pauline Boisaubert et Pierrick Charles. Très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.